Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est un lieu aujourd'hui qui se trouve aux avant-postes de l'actualité, si l'on peut dire, l'hôpital. L'étrange retournement de situation qui fait que la faiblesse et la mort sont sur le devant de la scène quand en général on préfère regarder ailleurs. En ce lieu se tiennent des chrétiens, et pour l'église catholique notamment des aumôniers. Rencontre ce matin avec l'un d'eux, Prisca Coste, une autre invisible qui nous aide à regarder la réalité à l'endroit. En direct du diocèse de Toulouse, donc portrait de Prisca Coste, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. C'est l'une de nos deux émissions du trimestre au plus près du terrain, une fois par trimestre. Si vous êtes familier de l'émission Vivante Église, on délocalise les studios. Ce matin, c'est donc en direct de Saint-Gaudens, depuis nos studios de Radio Présence à Saint-Gaudens. Pour vous rencontrer, Prisca Coste, vous êtes donc laïque en mission ecclésiale pour le diocèse de Toulouse et aumônière d'hôpital, ici à Saint-Gaudens. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui suis venu, mais quand même, vous êtes venu aussi depuis donc, les studios de Radio Présence. En général, on fait ça même chez les gens. Alors là, en l'occurrence, il aurait fallu qu'on fasse ça à l'hôpital, mais ce n'était pas très opportun. Avec vous, on va parler d'une certaine manière de l'actualité, de cette présence des chrétiens au cœur de cette actualité, et puis de ce beau métier d'aumônier d'hôpital. Peut-être pour commencer, vous direz que c'est un métier, Prisca Coste, d'être aumônier d'hôpital, ou c'est bien plus que cela ?
Je crois que c'est plus large qu'un métier. Alors, il y a une fonction, il y a une formation pour être aumônier, mais il y a avant tout un appel. Et voilà, on est dans de l'humain, et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'appel du Seigneur qui se passe, une invitation. Voilà, se laisser peut-être, dépasser par quelque chose du mystère de Dieu qui se joue dans cette mission d'aumônier.
C'est ce qu'on va découvrir avec vous. Si on en reste au début à l'actualité, quand on lit un petit peu l'actualité, il y a une question qu'on se pose. C'est quid de la présence des aumôniers dans les hôpitaux en ce moment ? Est-ce que à Saint-Gaudens, il y a donc un service Covid, oui. Un service de réanimation. Les aumôniers sont-ils mieux tolérés ? C'est ce qu'on pouvait trouver, c'était le titre d'un article du journal La Croix en novembre dernier, à l'occasion du deuxième confinement. Les aumôniers sont mieux tolérés qu'en mars. Qu'en est-il à Saint-Gaudens ?
Alors c'est le cas, effectivement. Sur le premier confinement au mois de mars, tout le monde a été un peu dépassé par la situation. Donc, quelle place donner à l'aumônerie ? On nous a donné une place, pas forcément, je reprendrai un terme actuel, essentielle, mais nous continuons les visites, notamment lorsqu'il y avait des appels pour des fins de vie. Mais il n'y avait plus ce qu'on appelle les visites fraternelles, où nous passions dans les chambres saluer les personnes qui avaient besoin de notre présence. Aujourd'hui, à la demande des familles et des soignants, nous venons rencontrer les personnes qui en font la demande, et quelle que soit leur demande, oui. Donc, notre service d'aumônerie, aujourd'hui, a sa place à l'hôpital.
Ça veut dire que l'hôpital, en fait, a fait du chemin entre-temps. Ils se sont rendus compte que c'était important. Comment ça s'est fait ? C'est un dialogue, en fait, entre les aumôniers, les soignants,
oui,
les responsables d'hôpitaux.
Oui, je crois qu'il y a eu une période où nous étions moins présents sur l'hôpital. Et à notre retour, il y avait une joie à se retrouver en disant « Enfin, vous revoilà, c'est bon signe de revoir l'aumônerie présente dans l'hôpital. » Donc la dimension spirituelle de la personne, à un moment donné, a été mise un peu entre parenthèses, et on s'est aperçu que non, la dimension spirituelle, elle est toujours présente et elle doit être toujours accompagnée.
À Saint-Gaudens, puisque c'est là que vous êtes, donc vous êtes à mi-temps, on peut dire aussi que votre autre mi-temps, ça montre votre profil et votre niveau d'engagement, on va dire, au service de l'Église. L'autre mi-temps, vous êtes coordinatrice de la pastorale des jeunes. À Saint-Gaudens, le service Covid, ça ressemble à quoi ? Je sais pas, il y a combien de lits ? Est-ce que c'est saturé ou pas ?
Alors, il y a une capacité d'accueil, me semble-t-il, de 24 lits. Le service Covid se situe au 4e étage de l'hôpital, donc nous prenons de la hauteur quand nous allons dans le service Covid. Il y a eu des moments, notamment pendant les vacances de Noël, où un cluster s'est déclaré sur l'hôpital, où le service Covid a été saturé. Maintenant, les choses se calment et puis il y a un retour à la normale qui se vit heureusement à l'hôpital.
Alors, vous n'êtes pas toute seule, il y a 14 bénévoles avec vous, on y reviendra aussi peut-être. J'aimerais au début de cette émission qu'on fasse un peu plus connaissance avec vous. Vous êtes Prisca Coste et vous avez une particularité, en tout cas pour nos éditeurs, ça en est une. Votre père, c'est donc Daniel Vigne, qui est chroniqueur, qui a été longtemps chroniqueur à Radio Présence, hein, qui est donc professeur de philosophie et de théologie, que j'ai eu plusieurs fois en émission. Ça dit que vous êtes né à priori donc dans une famille chrétienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre chemin de foi ? Vous m'avez confié en préparant cette émission que vous aussi, il a fallu trouver, faire votre trace au milieu d'une famille, on va dire, solide et assez typée. Parlez-nous un peu de votre recherche spirituelle à l'adolescence ou jeune adulte.
Alors effectivement, donc je viens d'une famille chrétienne et mon enfance a été baignée par des offices, la prière. J'ai eu la chance de grandir d'abord à Rome, puis à Jérusalem. Donc, toutes sortes de rencontres, d'influences. La foi a toujours été très présente dans mon enfance. Et puis, effectivement, lorsque vient l'adolescence, on a besoin de trouver sa propre voie. Se pose la question, est-ce que ma foi, c'est une foi qui vient parce qu'elle m'a été transmise, ou est-ce qu'il y a une vraie rencontre avec le Seigneur ? Est-ce que c'est un chemin qui m'appartient ? Donc j'ai eu besoin, à des moments peut-être dans mon adolescence ou jeune adulte, de prendre mes propres engagements. Je me souviens notamment m'être posé la question de qui me dit que le christianisme est la religion que j'ai choisie. Alors il y avait à des moments des recherches dans le bouddhisme, l'hindouisme, qui peut-être avaient un peu pour but d'agacer mes parents, mais qui en fait me répondaient très gentiment, c'est formidable de chercher à comprendre les autres religions. Et puis dans ces recherches-là, en fait, je sentais qu'il y avait toujours un retour à la figure du Christ, qui était mon repère. Et voilà, et j'ai approfondi ma foi dans divers mouvements ou groupes de prière. Il y avait ces rassemblements de jeunes qui étaient des temps forts pour moi en étant adolescente. Et puis étudiante, je faisais partie de Jeunesse Carmélitaine. J'ai fait aussi partie de la communauté Foi et Lumière, où j'ai était à la rencontre de ces personnes porteuses de handicap mental.
Voilà, c'est ça, hein, cette communauté d'amitié, on va dire, avec des personnes handicapées.
C'est ça. Je crois que j'ai toujours été touchée par les personnes peut-être plus en retrait, ou les personnes plus petites, entre guillemets, qui avaient des choses à m'apporter dans mon chemin de foi.
Alors, je ne sais pas si ça a joué, mais bon, en tout cas, vous avez fait donc des études dans le social. Vous êtes donc préparée à devenir éducatrice spécialisée. Vous avez exercé ce métier pendant un certain nombre d'années. Donc, vous êtes aussi mariée, vous êtes mère de famille. Et il se trouve qu'au gré des déplacements professionnels de votre époux, donc, le métier d'aumônier d'hôpital, en fait, vous a été proposé. Racontez-nous peut-être dans quelles circonstances ça s'est fait.
Oui, alors quand nous avons quitté l'Ariège, où effectivement j'exerçais en tant qu'éducatrice, nous sommes arrivés dans le Lot, à Gramma, à côté de Rocamadour, et je cherchais à retrouver un travail d'éducatrice, et puis un aumônier. Alors il s'agissait de l'aumônier de l'hôpital psychiatrique, l'Institut Camille Miret à Leyme, a pris contact avec moi en me disant je pense que j'ai quelque chose qui va t'intéresser, mais il faudrait que tu viennes découvrir. Donc je suis allée au cœur de cet hôpital. Je ne connaissais rien au milieu hospitalier, je ne connaissais pas grand chose à la psychiatrie, et j'ai été très intimidée en me disant je crois que je ne pourrais pas exercer cette fonction. Il m'a dit laisse-toi du temps, découvre. Et puis au contact des personnes malades, j'ai senti effectivement un appel. Donc, je n'ai pas cherché à être aumônier, comme ça a été le cas pour l'hôpital de Saint-Gaudens, où là aussi, lorsque nous sommes venus dans le commun, j'ai cherché à reprendre un travail d'éducatrice. J'ai travaillé auprès des réfugiés et puis ma voisine de hameau était aumônier de l'hôpital de Saint-Gaudens et m'a demandé si j'acceptais de poursuivre cette mission. Donc, à chaque fois, on est venu me trouver et puis j'ai répondu... présente à cet appel-là.
Alors on va découvrir un petit peu plus ce qu'est le métier d'aumônier d'hôpital. On s'est dit à chaque fois qu'on allait essayer d'illustrer ça. Commençons par le contexte actuel. Quand vous allez en visite, je vous ai demandé de nous trouver un exemple de visite en contexte Covid. En ce moment, vous y prenez comment? Déjà, peut-être... physiquement, donc vous rentrez en combinaison intégrale, c'est ça ?
C'est ça. Alors pour le service Covid et pour le service réanimation, dans les autres services, il y a évidemment les gestes barrières, la désinfection, le port du masque, mais les contraintes sont quand même moins drastiques que dans le service Covid ou en réanimation. Pour ces deux services-là, effectivement, il y a une tenue un peu cosmonaute.
Alors c'est quoi la tenue cosmonaute?
Alors il y a une blouse, parfois une surblouse, des surchaussures, il y a une charlotte. Alors nous avons la chance d'avoir divers modèles qu'on peut assortir en fonction
des couleurs,
du
c'est
jour,
ça
c'est ça, des fleuris, des unis, des bleus, des vertes, des roses. il y a le port du masque, il y a parfois les lunettes qui sont demandées, il y a les gants. Donc l'habillage et le déshabillage se fait dans un ordre précis, donc ça demande un petit peu de temps et puis voilà, il faut. Mais c'est un habillage nécessaire.
Alors là, donc vous êtes habillé, vous toquez à la porte. On peut dire donc que les bénévoles en ce moment en fait ne peuvent pas rentrer à l'hôpital.
Oui.
Hein. Oui. Ça, on y reviendra. Vous en tout cas, vous rentrez. Donc vous rentrez toujours à la demande de quelqu'un.
C'est ça. Nous ne rentrons pas dans une chambre quand nous ne sommes pas attendus. Donc c'est à la demande du patient qui peut faire appel à nous, soit en demandant aux soignants, soit en nous appelant. C'est aussi à la demande des familles, des proches ou à la demande du personnel soignant. Le médecin peut nous demander en disant « voilà, ça serait bien de venir dans telle chambre, j'ai repéré telle demande ».
Alors vous vouliez nous prendre l'exemple de Sonia, c'est un prénom qui a été modifié, racontez-nous cette rencontre.
Alors c'est une infirmière qui travaille...
Exemple récent donc. Hein.
Exemple récent, oui, il y a très peu de temps. On m'indique qu'elle est croyante, pratiquante, et puis en fait je me rends compte que c'est une personne que j'ai déjà croisée à la messe à Saint-Gaudens, donc je vais à la rencontre de cette personne en sachant qu'il y a déjà une demande spirituelle, et une personne pratiquante.
Donc c'est une personne qui est malade du Covid, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
Qui a contracté dans ses fonctions d'infirmière. Voilà, donc elle...
Donc qui est gravement malade en l'occurrence ?
Et en service Covid, c'est donc qu'il y a des soins importants.
D'accord, donc mais qui n'était pas en réanimation ?
Elle n'a pas été en réanimation et elle est sortie assez rapidement du service Covid. Mais c'est toujours inquiétant quand on est en service Covid parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Pour le coup, elle a été, elle, très inquiète pour sa famille, ses enfants. Voilà, comment est-ce que je peux... garder mon rôle de maman et rassurer mes enfants alors qu'ils ne peuvent pas me voir.
Parce que donc, on ne rentre pas, la famille ne rentre pas
en service
Covid.
La famille ne peut pas rentrer en service Covid, non. Il peut y avoir des exceptions lorsque la personne est en fin de vie et qu'il y a besoin de venir dire un dernier au revoir à la personne. Mais sinon, pendant l'hospitalisation, les visites ne sont pas autorisées.
Donc vous rentrez.
Donc je
rentre. Vous rencontrez Sonia.
Voilà. Il y a toujours un petit moment où les personnes se disent « Alors, est-ce que c'est la kiné, le médecin, une infirmière ?» Il y a beaucoup de passages dans les chambres. Donc, il y a ce temps de présentation. Quand je dis que je suis l'aumônier, en général, il y a un très bon accueil. Voilà, les gens savent qu'on vient avec bienveillance, dans un temps qui est offert, gratuit. Alors, nous prenons le temps avec Sonia d'échanger sur sa foi, sur... son travail sur cette maladie. Elle m'étonne parce qu'elle me dit « j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre mon travail, mes collègues m'attendent ». Voilà. Alors c'est là où on mesure aussi le dévouement, l'engagement des soignants dans ce contexte si particulier. Ils ne sont pas dans la fuite, ils sont sur le terrain. Et quand ils ont le virus, eh bien, ils pensent à une seule chose, c'est revenir. Voilà, donc c'est très touchant.
Vous laissiez entendre aussi que c'est pas toujours simple, en fait, de rendre visite aux personnes malades dans le contexte actuel, parce qu'on ne voit que vos yeux.
Oui.
Donc il faut avoir le regard aiguisé.
Il faut avoir le regard aiguisé. Nous ne pouvons pas toucher, nous ne pouvons pas vraiment non plus nous approcher. Hein, il y a cette distance à respecter. Alors, beaucoup de choses passent évidemment par le regard. On me parle souvent de mes yeux en disant « Oh, qu'est-ce que vous avez de jolis yeux ?» Je ne pense pas avoir des très jolis yeux, peut-être ils sont bleus, mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont échangées par le regard. Alors, voilà, on se regarde et des fois, il n'y a pas de mots, il y a simplement un face-à-face avec un échange de regard profond et vrai qui se vit dans ces moments-là.
En direct du diocèse de Toulouse, Prisca Coste, aumônière d'hôpital, ici en l'occurrence à Saint-Gaudens, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de cette belle mission. Emmanuel Pella. En direct du diocèse de Toulouse, Prisca Coste, aumônière d'hôpital, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. L'émission donc Vivante Église est délocalisée pour cette première émission, puisque donc il y en a deux par trimestre au plus près des réalités des diocèses. C'est donc le diocèse de Toulouse pour ce trimestre-là. Première rencontre avec vous, et puis on ira, non, ça sera une surprise, la deuxième émission, on ira se promener ailleurs. Prisca Coste, j'aimerais qu'on... Donc on est avec vous, pardon, Prisca Coste, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient. Vous êtes donc laïque en mission ecclésiale pour le diocèse de Toulouse et aumônière d'hôpital à mi-temps ici à Saint-Gaudens. Ce métier d'aumônier d'hôpital, puisque c'est un métier et en même temps une mission, un appel à vous entendre, c'est pas forcément très connu comme réalité, mais on va dire c'est un vieux fruit de la séparation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui stipule donc que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Pourtant, pour certaines réalités, dit la loi, établissements publics, lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons, dit la loi, il y a une exception. Racontez-nous un petit peu ce que vous en connaissez de cette exception.
Alors, la loi de la laïcité nous a offert ce qu'on appelle le droit au culte. Et donc, il y a des lieux où ce droit peut s'exercer difficilement. Ça peut être le cas, effectivement, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans l'armée. Lorsque la personne ne peut pas aller pratiquer sa foi, sa religion, eh bien, il faut trouver des moyens pour que ce droit puisse être vécu. Pour le coup, il y a donc des aumôniers salariés. Alors, ça peut être pas uniquement des aumôniers catholiques, hein, ce sont des aumôniers pour les différents cultes.
Salarié, ça veut dire que donc vous êtes salarié par l'hôpital?
Nous sommes salariés par l'hôpital, oui, oui. Nous sommes envoyés en mission par le diocèse. Hein. L'évêque nous donne une mission de 3 ans qui peut être renouvelable, mais nous sommes bien des salariés de la fonction publique.
Donc vous êtes proposé c'est une proposition de l'autorité cultuelle, et après donc le chef d'établissement, en l'occurrence le directeur de l'hôpital, donc vous embauche. C'est très cadré, hein. Il y a même une charte donc de la personne, une charte des aumôniers, hein, si j'ai bien,
oui,
compris. Vous êtes à peu près 2000 aumôniers catholiques à travers la France, et près de 15 000 visiteurs. Donc qui, eux, sont bénévoles. Racontez-nous un peu ce travail d'équipe. C'est quoi le trio dans une aumônerie? C'est prêtre, aumônier, visiteur, c'est ça un peu le triangle gagnant?
L'aumônerie, c'est un service d'église, donc un service d'équipe. Un aumônier seul, alors c'est ce que je vis actuellement depuis 1 an, et je mesure combien l'équipe est importante et est une richesse pour notre service. Il y a donc un aumônier ou plusieurs aumôniers, hein, c'est le cas dans notre diocèse pour les hôpitaux de Purpan, de Rangueil, de Marchand. Saint-Gaudens, c'est un plus petit hôpital, donc il n'y a qu'un poste salarié. Mais j'ai la chance de travailler avec une équipe de bénévoles, ils sont nombreux.
Donc 14 en l'occurrence, c'est ça, hein?
14 bénévoles. Alors, ce travail d'équipe permet d'offrir des présences diverses, avec des charismes différents. J'ai des très, très belles personnes dans mon aumônerie.
C'est quoi le profil des visiteurs? Ce sont souvent des personnes d'un certain âge qui ont du temps, ou il y a de tout?
Alors, cela peut demander du temps. Dans notre aumônerie, on adapte en fonction des disponibilités. On a eu des personnes qui avaient un travail à côté et qui venaient une fois par mois, mais il y a des bénévoles qui sont présents 2 fois ou 3 fois dans la semaine, qui portent la communion le dimanche, qui viennent à la célébration le lundi, et puis qui vont visiter le mardi après-midi des personnes dans les services. Donc, comme j'ai une équipe nombreuse, on peut adapter leur présence en fonction de leur disponibilité. Au niveau de leur profil, ce sont des personnes souvent engagés en église et qui ont cette attention à l'autre. On demande aux bénévoles aussi de suivre des formations. Ce sont des personnes qui signent une charte des bénévoles, avec des engagements pendant leur temps de mission à l'hôpital.
Par exemple, vous pouvez donner quelques exemples? Il y a quoi dans cette charte?
Alors, il y a le port du badge obligatoire. Hein. Nous ne venons pas à l'hôpital en terrain conquis, donc il faut que les bénévoles puissent être repérés et par les patients et par les soignants. Il y a une demande de discrétion, c'est-à-dire que les informations ou les confidences qui vont être données ne vont pas être divulguées. Hein. On ne raconte pas ce qui se vit à l'hôpital dans une chambre après aux autres paroissiens. C'est le type d'engagement qui est demandé dans la charte. Et puis aussi un engagement de formation. Nous restons dans une formation continue. Et puis de vie fraternelle, quand on est en équipe d'aumônerie, nous vivons une petite église, et donc nos relations doivent être dans la fraternité, dans la simplicité, dans la vérité. Je dirais que les petites tensions ou les ragots n'ont pas leur place en équipe d'aumônerie à l'hôpital.
Il y a toujours un prêtre, en fait, où aujourd'hui on peut pas toujours se payer ce luxe, c'est-à-dire que vous faites quelque part office, j'allais dire office de prêtre, le mot est mal choisi, mais enfin c'est vous le référent. Alors, et éventuellement, vous faites appel à un prêtre si besoin ou s'il demande des soignants, des malades.
Un prêtre, parce qu'effectivement, nous avons la possibilité donc de visiter, de porter la communion aussi, de célébrer, mais évidemment, je ne peux pas confesser, je ne peux pas porter le sacrement des malades.
Quand vous dites célébrer, du coup, c'est quoi? Vous pouvez...
Alors, il y a ce qu'on appelle la célébration de la parole, au long séjour et à l'EHPAD de la maison de l'hôpital. Il y a toutes les semaines un temps de célébration qui là est entre parenthèses pendant ce contexte de Covid. À l'hôpital, il y a des services où les personnes sont hospitalisées sur du long terme et des personnes qui peuvent être âgées, donc où la pratique religieuse est importante. Donc il faut offrir des moments de prière et de célébration. Et là, l'équipe peut proposer ces temps de célébration. Mais le prêtre reste très présent à l'hôpital, est une figure qui est importante pour les personnes hospitalisées. Et il y a le sacrement des malades. Qui est donné, qui sera donné cet après-midi, par exemple. Donc le père Adrien est très présent à l'hôpital et on le remercie pour cette disponibilité, parce que je peux parfois l'appeler dans des moments où il n'est pas forcément disponible. Il y a parfois des demandes urgentes où il faut être dans la demi-heure présent à l'hôpital.
Alors ça demande une grande disponibilité, un engagement important. Vous me disiez qu'en fait on pouvait vous appeler... n'importe quand, c'est ça en fait, vous êtes quelque part comme les pompiers.
C'est ça, donc c'est là où l'équipe est importante aussi, c'est pouvoir se passer le relais, quand je ne suis pas disponible parce que occupée avec mes enfants, je peux faire appel à un bénévole ou au diacre ou au prêtre pour qu'il y ait ce relais-là, mais oui effectivement, l'aumônerie c'est une disponibilité 24 heures sur 24.
Et pourquoi ? Parce qu'on attend un peu le dernier moment toujours pour vous appeler ou...
Oui, on est encore dans cette conception un peu de la religion où la venue du prêtre ou de l'aumônier doit se faire dans les derniers instants de vie. Il y a des familles où même la venue du prêtre peut faire peur, donc on appelle quand c'est vraiment le dernier moment. Donc nous répondons à cette demande-là, même si nous essayons d'expliquer que le sacrement des malades n'est pas un sacrement pour les mourants, c'est un sacrement pour les vivants, qui peut être donné pour simplement une hospitalisation, une opération. C'est pas simplement lorsque le grand passage se prépare.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des illustrations un peu plus en détail en fait des différentes modalités d'intervention, parce que on entend ce que vous venez de dire et en même temps la plupart du temps c'est quoi, c'est un travail de visite, c'est ça, faire en sorte de se faire connaître pour que on pense à vous proposer de visiter les personnes, on imagine que c'est un peu les situations extrêmes ce que vous venez de décrire, c'est pas le fond de roulement de l'activité quelque part.
Alors, notre mission, c'est répondre aux besoins spirituels de la personne. Donc, dans ce qu'on appelle les besoins spirituels, c'est très large. Il n'y a pas forcément une demande religieuse précise ou une demande de sacrement. Donc, ça peut être une visite fraternelle, quelqu'un qui a besoin de faire une relecture de vie. Je dirais que dans la moitié de nos rencontres, la foi n'est pas forcément abordée ou il n'y a pas forcément de temps de prière, mais c'est une présence qui est offerte et une écoute surtout. Parfois, l'aumônier ou le membre de l'aumônerie parle très peu, mais c'est la personne qui a besoin de se confier. Il peut y avoir une demande de communion, la personne peut demander à se confesser. Et puis il y a des demandes aussi des familles ou des soignants. Hein, ce n'est pas forcément, l'aumônerie n'est pas uniquement disponible pour les patients, mais un soignant qui traverse une difficulté a besoin d'en parler et l'aumônier peut répondre à cette demande-là. Ou bien un proche qui est en souffrance lui aussi parce que la personne... dont il est proche, qu'il aime, est hospitalisé et il a besoin de parler de ses propres difficultés.
Alors ce qu'on peut lire à propos du métier d'aumônier d'hôpital, c'est que le prosélytisme est interdit. C'est-à-dire qu'en fait c'est toujours un peu un travail sur une ligne de crête d'être aumônier d'hôpital. Ça veut dire quoi en fait que le prosélytisme est interdit ?
Alors, comme je le disais, on ne rentre pas dans toutes les chambres. On rentre là où on a été appelé, là où on est attendu. Évidemment, on ne vient pas essayer de convaincre les personnes. Alors, quand on visite une personne hospitalisée, on vient d'abord rencontrer la personne là où elle est. On ne cherche pas à catéchiser ou à l'amener à un point précis qu'on aurait anticipé pour elle. Donc, l'aumônerie demande aussi une certaine discrétion dans l'hôpital. Il y a tout un système d'affichage qui permet d'informer les personnes de l'existence d'un service d'aumônerie, mais on ne fait pas une pub ou une promo de l'aumônerie au sein de l'hôpital. Les choses se font dans une certaine discrétion.
Les soignants, eux, rappellent systématiquement en fait, aux malades qu'il y a la possibilité de rencontrer un aumônier d'hôpital ou...
Alors, dans l'idée, ça serait bien que ça soit rappelé systématiquement. Ce n'est pas toujours le cas parce que les soignants ne sont pas toujours bien informés de ce qu'est la mission de l'aumônerie. Donc, ils ont peur d'aller dans un terrain qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc, on essaye aussi de bien informer les soignants sur ce qu'on fait, le pourquoi de notre présence. Mais de plus en plus, et je remarque là sur ces dernières années, que les demandes se font de plus en plus par les soignants qui repèrent effectivement une demande spirituelle ou une détresse de la personne et où ils se disent l'aumônier, le psychologue est passé, le kiné est passé, l'assistante sociale est passée, peut-être que l'aumônier a quelque chose aussi à apporter.
Et c'est la même chose pour les visiteurs, parce qu'on peut se dire que visiteur c'est presque moins engageant en fait
Non, les soignants, alors quand les bénévoles viennent dans les services, les soignants les repèrent et puis les bénévoles viennent toujours se présenter en disant « voilà, nous faisons partie de l'équipe d'aumônerie, nous venons visiter ». À ce moment-là, les soignants disent « oh, ben vous pourriez peut-être aller à la chambre 309, il y a une dame, j'ai repéré qu'il y avait un chapelet sur sa table de nuit, je pense qu'elle serait intéressée ». Voilà, donc les membres de l'aumônerie font partie aussi intégrante de ces personnes que les soignants repèrent.
On peut dire aussi qu'à Saint-Gaudens, il y a une particularité, c'est que donc, vous êtes le seul référent pour les cultes, puisque c'est un petit hôpital, donc il n'y a pas d'autres aumôniers.
Oui.
Ça veut dire aussi que quand éventuellement une personne de tradition juive ou religieuse musulmane veut faire appel à quelqu'un de sa religion, que ce soit un rabbin ou un imam, en fait, ça passe par vous, c'est ça ?
C'est ça. Voilà, donc en étant seul aumônier, s'il y a une demande qui est formulée, l'équipe soignante donc fait appel à l'aumônerie et puis il y a tout un relais qui peut être organisé avec les représentants des autres cultes. Il y a assez peu de demandes à Saint-Gaudens, soit parce que les personnes connaissent déjà le représentant de leur culte et passent directement par lui. Après, nous sommes dans un milieu plutôt rural et où, je dirais, la majorité des personnes sur Saint-Gaudens, lorsqu'il y a une demande religieuse, on est plutôt dans le culte catholique.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? L'exemple que vous voulez nous prendre, en l'occurrence, donc c'est une certaine Joséphine. Prenez le temps de nous raconter cette histoire. Donc, cette femme est résidente à l'EHPAD, en maison de retraite. Ça veut dire qu'il y a un EHPAD à l'intérieur de l'hôpital ?
Oui. C'est D'accord. ça, sur un bâtiment un petit peu annexe. Mais
Racontez-nous cette rencontre et dites-nous pourquoi vous l'avez choisie.
Alors, il faut savoir que les personnes que nous visitons, parfois nous les visitons une fois, deux fois, et puis après la personne continue son chemin. Mais il y a des personnes que nous visitons pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il peut y avoir des relations d'amitié qui s'instaurent avec ces personnes-là. En l'occurrence pour cette dame que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois et que je visitais toutes les semaines. Et donc nous avons eu une belle amitié, une belle complicité. C'était une personne très joyeuse, très drôle, un peu déroutante par moments, mais avec une foi très profonde, ancrée. Nous avions donc nos moments d'échange et nos moments de prière. Et puis cette personne... à un moment donné a été en fin de vie dans ces derniers jours l'infirmière me demande de passer la voir en disant on est vraiment à la fin. Donc je suis rentrée dans la chambre de Joséphine et puis je l'ai vue alitée, les yeux fermés, le teint très pâle, et j'ai deviné que c'était la fin. Alors Dans ces moments-là, il y a une certaine tristesse, évidemment, parce qu'on se prépare à dire au revoir. Il y a un certain recueillement, une profondeur dans ces instants-là. Je me suis approchée d'elle, pensant qu'elle ne pourrait pas me répondre. Je me suis présentée avec une voix assez douce, en disant « voilà, je suis là, c'est Prisca ». Et puis, ses yeux se sont entrouverts et elle m'a répondu avec une voix un peu rock en me disant « bonjour ma poule ». Voilà, alors c'est un souvenir que je garde parce que je ne m'étais pas préparée à ce qu'elle me réponde. Elle avait toujours des petits noms comme ça qu'elle aimait bien donner.
Et vous n'étiez pas préparée à ce qu'elle vous parle et à ce qu'elle vous appelle ma poule en pareille circonstance, c'est ça ?
Est-ce qu'il y a un petit moment à la fois de complicité, d'humour, comme ça, un petit sursaut de vie ? Je pensais que ça serait un moment profond dans le silence et puis il y a eu cette petite note d'humour qui m'a été donnée, ça correspondait bien à ce que nous avions échangé jusque-là. Elle est décédée très peu de temps après, hein. On savait que c'était la fin, mais cet exemple, ça montre que dans nos visites, on est toujours, on n'est jamais préparé à ce qui nous attend, à ce que la personne va nous confier. Il y a toujours des petits moments de vie, même dans les moments très graves. Il y a de l'imprévu, de l'inattendu. Quand on va à l'aumônerie, on ne sait jamais ce qui nous attend. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien prévoir, qui est dans la maîtrise des choses. Dans ma mission d'aumônerie, ce n'est pas ce qui nous est demandé. C'est à la fois très beau et à la fois déroutant. Mais c'est ce qui fait notre mission très belle, c'est que nous sommes dans le mystère.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour cette émission donc en direct du diocèse de Toulouse, cette émission portrait et portrait du travail d'aumônier à travers vous, Prisca Coste.
Présence à Toulouse, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
En direct du diocèse de Toulouse, c'est donc pour rappel le thème, Prisca Coste, aumônière d'hôpital, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, si vous nous rejoignez, Prisca Coste est laïque en mission ecclésiale et aumônière d'hôpital à mi-temps. Et nous la rencontrons ce matin et nous rencontrons ce beau métier, ce bel apostolat qui est mis en valeur entre autres par les circonstances actuelles. Prisca Coste, il y aurait de multiples fils à tirer dans votre pratique professionnelle et ecclésiale. Et il y en a une qui vous tient à cœur, j'allais dire à corps, c'est justement la place du corps. Vous avez même été jusqu'à faire un mémoire sur ce sujet, une approche du corps et des cinq sens dans la mission d'aumônier à l'hôpital. Vous avez fait ça à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, que l'on cite souvent à cette antenne, et c'est tant mieux. Expliquez-nous pourquoi vous est venu ce désir de passer du temps à réfléchir sur ce sujet.
Quand nous allons à la rencontre des personnes, nous n'allons pas à la rencontre de leur esprit en premier, même si nous répondons aux besoins spirituels. Ce qu'on rencontre en premier, c'est une personne avec son corps, avec son regard, avec son visage, avec son corps malade. Et ce que nous offrons, avant d'offrir une belle parole ou une belle catéchèse, eh bien nous aussi, c'est un geste, une voix, un regard. Et nous avons parfois tendance à penser que les médecins guérissent les corps et que l'aumônier vient guérir les âmes. Je crois que c'est une vision un peu tronquée, un peu dichotomique de notre mission.
Ça veut dire, Prisca Coste, si on reprend l'exemple d'une visite, quand vous rentrez dans la chambre, vous vous dites consciemment « mon corps a une place » ou vous commencez par embrasser, alors, vu les circonstances actuelles, moins.
Oui, alors quand on rentre dans une chambre, on frappe à la porte. Donc il y a d'abord Louis qui est sollicité. Comment est-ce que je frappe ? Je m'introduis, donc je m'annonce. Et puis comment je me situe par rapport à la personne, est-ce que je suis proche, est-ce que... et puis moi je peux observer déjà comment la personne se situe, est-ce qu'elle est alitée, est-ce qu'elle est dans un fauteuil, est-ce qu'elle est âgée, est-ce qu'elle elle semble triste, est-ce qu'elle semble joyeuse, est-ce que plein de choses par le regard nous donnent déjà des informations de la visite qui nous attend. Donc être attentif à tout ce que nos sens vont nous donner comme information. Quels sont les sons, quelle est la lumière de la chambre. Voilà. Donc il y a ce corps à corps dans la visite qui a une place importante et qu'il ne faut pas oublier et qui nous permet d'entrer dans une rencontre, dans une relation plus en vérité.
Ça veut dire qu'en temps normal, donc hors contexte Covid, où vous êtes privé de contact physique, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de, vous avez le droit de toucher, de caresser, de tenir une main. Ça fait partie entre guillemets de la rencontre.
Ça fait partie de la rencontre. Il n'y a pas de règles précises à ce niveau-là. Je dirais que le toucher est un sens particulier. On rentre dans une forme d'intimité par le toucher. Donc ça demande une vigilance. Nous pensons parfois que caresser une main, caresser des cheveux, c'est un signe de tendresse, de fraternité. Je dis, restons prudents parce que dans le toucher, parfois certaines personnes n'ont pas envie d'être touchées. Il y a une proximité trop importante qui se joue dans le toucher, et puis il y a des fois dans l'histoire de la personne des choses à prendre en compte qu'il faut connaître avant de toucher.
Et puis tout le monde n'est pas conscient aussi parfois quand vous rentrez dans la chambre, donc
c'est ça.
Voilà, vous n'avez pas toujours moyen de savoir si la personne est d'accord pour que vous la touchiez ou pas.
Oui, alors déjà soyons attentifs quand la personne est consciente. Si on nous offre un geste de tendresse, c'est parce que la personne nous y invite. Elle tend la main vers nous et à ce moment-là, nous pouvons répondre. Ou nous posons très discrètement notre main et puis nous sentons si la personne est accueillante ou au contraire va avoir un geste un petit peu de retrait à ce moment-là. Voilà, nous adaptons notre posture. Pour une personne qui n'est pas consciente, le toucher permet quand même d'offrir une présence en disant « je suis là », mais attention à ne pas avoir un toucher trop fort ou trop imposant. C'est simplement manifester notre présence.
Dans votre travail, vous avez une expression comme ça, vous dites « nos sens sont différentes facettes de Dieu ». Est-ce que vous pouvez illustrer cette expression que j'ai trouvée ?
Alors, je crois que Dieu se révèle à nous de plein de façons, mais pas comme un esprit lointain. Voilà, il passe à travers nos corps, il dit des choses de lui par nos sens. On peut trouver Dieu dans un rayon de soleil, dans une voix douce. Voilà, Dieu est un grand mystère, mais à la fois il se fait proche de nous et il peut se faire proche de nous par nos sens.
C'est-à-dire qu'à vous entendre, en fait, les sens peuvent être le début d'une ouverture au divin, presque. C'est ce qu'on peut comprendre peut-être dans votre propos. Vous avez une expression comme ça, les sens, ce sont les sens qui font sens. C'est-à-dire, ça veut dire qu'aussi, parfois, les personnes malades aussi, ça passe par là. C'est le chemin vers un chemin spirituel, justement.
Alors, si on regarde notre modèle qui est le Christ, dans sa façon de rencontrer les personnes, et particulièrement les personnes malades, il les regarde, il les écoute, il les touche. Il y a parfois même l'odorat qui peut être... qui peut jouer dans la rencontre. Donc, dans notre mission d'aumônerie, nous essayons de rencontrer la personne comme le Christ viendrait la rencontrer. Et oui, nos sens peuvent dire quelque chose de Dieu. Et donc, être attentif à comment je regarde, comment j'écoute. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est plus uniquement Prisca qui regarde ou Prisca qui écoute, mais quelque chose de plus grand, de plus transcendant.
Est-ce que vous pourriez prendre un exemple, avant qu'on parle de vous, hein, et des fruits que peut porter ce type de métier, parce que vous avez vécu une expérience spirituelle forte, mais comme ça, dans cette place des sens, une ou plusieurs rencontres qui vous viennent à l'esprit, où vous dites, on peut imaginer parfois qu'en fait, aussi, vous ne vous dites rien, mais par contre, il y a des gestes, il y a des regards. Est-ce qu'il vous revient quelques exemples comme ça, en tête ?
Il y a des personnes pour qui, des fois, la rencontre est difficile, parce qu'il y a des choses... lourdes dans leur histoire ou bien dans leur hospitalisation, et offrir un moment de silence mais avec un regard profond où la personne se sent considérée. Alors je crois que étymologiquement, considérer, c'est regarder attentivement. Lorsque la personne se sent considérée dans un regard, eh bien il y a quelque chose qui peut se libérer. J'en reviens au toucher, où effectivement, des fois, les personnes ont besoin de sentir une proximité, une tendresse, et simplement une main ouverte peut venir...
Est-ce que vous avez un exemple précis qui vous revient en tête ? Ne donnez pas forcément le nom, mais une situation où vous dites, oui, de fait, là, le corps a eu beaucoup de place.
Alors, j'ai une situation qui me vient en tête. C'est une visite qui s'est passée en maternité, où nous sommes parfois appelés pour des situations difficiles, puisque quand nous sommes appelés en maternité, c'est parce que ou le bébé ne va pas bien ou le bébé est décédé. C'était le cas de cette maman où, à la naissance, sa petite fille est décédée. La maman refusait de voir le corps. C'était quelque chose qui était trop difficile pour elle. L'équipe soignante m'a appelée en disant « on aimerait bien l'aider pour ce travail de deuil, peut-être à dire au revoir à sa petite fille ». Quand je suis allée visiter cette personne, je ne savais pas vraiment quel mot je pourrais dire pour la réconforter. Il me semblait que c'était une épreuve terrible. En entrant dans la chambre, j'ai simplement ouvert mes bras et cette maman s'est jetée dans mes bras et a pleuré longtemps, très longtemps. Et il y a eu une tendresse entre nous. Et je pense que ça a été un moment fort pour elle. Et à un moment donné, elle m'a dit « Je veux voir ma petite fille ». Alors j'ai signalé à l'équipe soignante et puis on a pris le temps ensemble de regarder ce petit corps, de dire au revoir. Un petit corps, c'était très émouvant. Mais voilà, parce qu'il y a eu... un contact physique, une tendresse partagée, peut-être que ça a permis à cette maman de passer ce cap difficile.
Prisca Coste, pour finir, j'aimerais que vous parliez encore plus de vous, au-delà donc de, enfin, au cœur de votre mission. C'est c'est un témoignage que vous donnez donc dans votre travail, hein, une approche du corps et des cinq sens dans la mission d'aumônier à l'hôpital. C'est un mémoire que vous avez fait, donc pour rappel, puisque comme fruit ou comme appel quelque part, vous aussi, Dieu vous a rejoint au cœur de cette mission. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Sur un récit
Non, votre première rencontre, en fait, là où Dieu vous a fait signe, hein, la rencontre de cette vieille dame.
Alors, je reviens au tout début de ma mission, en hôpital psychiatrique.
Dans le Lot, donc.
Dans le Lot. Il y a eu cette rencontre très simple, mais qui a été très forte comme début de mission pour moi.
Vous commenciez votre mission, c'est ça, hein ?
Oui, je commençais ma mission, donc c'était une découverte pour moi. Et je suis appelée dans le service de gérontopsychiatrie pour une dame. Je rentre dans le service et puis il y a la salle d'accueil où différentes personnes étaient présentes. Et j'entends au loin une voix qui appelait en disant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Alors un peu novice en la matière, je n'étais pas appelée par cette personne en particulier, donc je ne savais pas vraiment si je pouvais aller m'adresser à elle. Et puis cette voix se faisait tellement insistante que je suis allée la voir. Et il s'agissait d'une personne très âgée qui était alitée mais sanglée dans ce qu'on appelle un fauteuil coquille. Son visage était tourné et puis je me suis approchée plus près. Je me suis rendue compte que cette personne était aveugle avec un regard très transparent, une personne qui avait un physique, je dirais, un peu repoussant, avec des croûtes sur tout le visage, et puis une forme de détresse dans son appel.
Qui ne sentait pas très bon aussi, hein, vous
Qui ne sentait pas très bon, oui. C'est vrai. Alors là, l'essence était, voilà.
Mis à rude épreuve.
Mis à rude épreuve, effectivement. Alors je me suis présentée, je fais partie de l'aumônerie, j'entends que vous appelez, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Et cette personne me dit « Oui, oui, j'ai soif, j'ai soif ». Alors, je ne savais pas si j'étais autorisée à lui donner à boire. Je me dirige vers le bureau des soignants. Une infirmière me répond un peu sèchement, me disant « Vous avez qu'à lui donner un verre d'eau ». Alors, je pars à la recherche d'un verre d'eau dans le service. Je ne connaissais pas très bien les locaux. Je m'aperçois qu'il y a un point d'eau, mais il n'y avait pas de verre. Je pars à la recherche d'un verre. Je m'adresse à une autre soignante qui m'envoie dans un lieu. Enfin, je pars dans cette quête d'un verre d'eau qui était un peu laborieuse. Et je reviens finalement victorieuse auprès de cette dame. Je lui avance le verre, elle boit quelques gorgées et puis elle me remercie. Je m'éloigne, je vais voir une autre personne et j'entends que cette personne appelle à nouveau. « S'il vous plaît, s'il vous plaît ». Alors j'avoue que sur le coup, j'avais plus du tout envie de revenir la voir. Cette première rencontre avait été un peu déroutante pour moi. Et puis je sens qu'il faut que j'y retourne. Il y a un je ne sais quoi qui me pousse à aller la voir. Alors je lui dis, voilà, j'entends que vous appelez à nouveau. Est-ce que je peux faire autre chose ? Elle me dit, mais il y a une dame tout à l'heure qui est venue me voir. J'avais soif et elle m'a donné à boire. Et c'est à ce moment-là que la parole du Christ, l'évangile me revient. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et ça a été très fort pour moi parce qu'à ce moment-là, j'ai regardé cette femme aveugle, cette femme malodorante, cette femme sanglée. Et je me suis dit, il y a le Christ présent en elle. Et le Christ m'appelle, le Christ m'attend. Et c'est venu confirmer cet appel à être aumônier, à venir rencontrer ces personnes et dans ces rencontres, à venir rencontrer le Christ.
Et elle vous a dit ?
Et alors, et elle m'a dit, je voulais vous dire, c'est parce que je vous aime beaucoup. Voilà, donc je crois que le cœur de notre mission, eh bien, c'est le Christ, mais c'est l'amour.
Eh bien, merci beaucoup Prisca Coste pour votre beau témoignage, et à travers vous donc on a découvert le métier d'aumônier d'hôpital, et aussi on peut dire hein, tous les visiteurs qui vous accompagnent, tous les bénévoles, une autre facette de l'actualité et une belle facette, une belle pépite de la vie d'église. Un grand merci Prisca Coste.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry et Océane Soulier. Vous pouvez la retrouver ce soir à 21, la réécouter pardon ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.